nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Alors que nous sommes touchés de plein fouet par le coronavirus et le confinement qui en découle, je vous propose d'échanger avec des invités de Génération Do It Yourself passés et à venir afin de comprendre comment ils gèrent la crise de chez eux et d'augmenter ainsi notre moyenne en temps de crise. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'avoir une invitée, je lui disais juste avant, qui a l'habitude de me faire du mal. Alors j'aimerais me venger, mais je ne sais pas trop comment je vais pouvoir me venger pendant cet épisode. Alors elle était très surprise, elle me dit « Bah bon, mais comment je te fais du mal ?» Bah, je lui dis « Bah souvent, après te regarder sur YouTube ou ailleurs, eh ben, j'ai mal pendant quelques jours, voilà. » Salut Lucille, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va, ça me fait rire.
Bah, en plus, je suis pas le seul, tu te rends pas compte, je pense que tu fais du mal à tellement de monde, mais a priori, c'est pour leur faire du bien, c'est ça, quoi.
Voilà, normalement, c'est mon mantra à moi, c'est se faire du bien sans se faire de mal. Donc, ouais, c'est un peu l'inverse de ce que tu dis, mais bon, parce que toi, t'as du mal pour te faire du bien.
Non, mais j'aime bien. Alors après, c'est aussi ma manière de faire du sport et notamment, voilà, tout c'est quand je suis sur un niveau, je pense, intermédiaire, je vais toujours aller chercher la vidéo confirmée pour me faire un peu plus mal, pour avoir des courbatures, parce que j'ai l'impression que ça sert vraiment à quelque chose. Donc, moi, je fais partie de ces gens qui aiment les courbatures, tu vois. Donc, se faire un peu de mal.
C'est bien, c'est bien. Les courbatures, c'est la vie.
Voilà. Lucille, raconte-moi juste avant. Donc, tu es Lucille Woodward. On te retrouve notamment sur lucillewoodward.com. Et puis, dès que tu tapes Lucille Woodward, tu as à peu près 1 million de trucs qui s'affichent, de l'Instagram, du YouTube, peut-être pas du Twitch, mais enfin, un peu toutes les plateformes qui existent. À part faire du mal aux gens, tu fais quoi alors dans la vie ?
Écoute, donc oui, je suis coach sportif, en fait, c'est mon métier de base. Je me suis aussi formée à la micronutrition et en fait, j'aide les gens à se remettre en forme de façon saine, durable. Donc, l'idée, c'est vraiment d'éviter à mort tout ce qui est régime yo-yo, méthode ultra drastique qui dure 3 semaines et qu'après, on drop. J'essaie de plus en plus de mettre un peu de psychologie ou en tout cas de coaching mental dans ma méthode. Voilà, donc je fais ça. Et pour faire parler en fait de ce que je propose, j'ai une chaîne YouTube, un compte Instagram, une page Facebook, un groupe Facebook, un blog. Voilà.
C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, ça fait beaucoup de choses à animer. Et puis j'ai découvert que derrière Lucille Woodward, il y avait Lucille Woodward SAS, il y avait Marion avec qui j'ai parlé longuement aussi et qui m'a raconté un peu tout ce que vous faisiez. Qui méritera un épisode peut-être plus business un jour parce que c'est assez passionnant ce que vous vivez depuis quelques temps, toutes les deux et plus puisque vous avez une équipe. Vous êtes combien ?
Alors, on est 6 à temps plein en fait, donc Marion et moi, on est associés, on a 4 collaboratrices à plein temps. Et après, là, on avait des ambitions d'embaucher un peu plus. Bon, là, forcément, avec la situation sanitaire actuelle, ça va peut-être prendre un peu de temps. Mais voilà, pour l'instant, on est 6 à temps plein.
Et le modèle, juste pour rappeler, pour être certain, c'est que vous vendez notamment pas mal, alors, comment on appelle ça, des trainings, des plans.
On appelle
de...
ça des plans d'entraînement, c'est ça.
D'accord.
Donc, en fait, c'est des programmes, des plans d'entraînement, sport, nutrition et coaching mental. Donc, on vend ça sur notre site internet, sur notre shop. Donc, voilà, c'est vraiment la majorité de notre chiffre d'affaires. Après, on a quelques partenariats avec certains équipementiers sportifs ou, du matériel, de l'équipement, aussi autour de la nutrition, parfois de la beauté. Mais ça reste quand même assez sporadique. Vraiment, la majorité de notre activité vient de la vente de nos programmes, de nos plans d'entraînement.
D'accord. Sache que chez moi, tu as le droit de citer tous les sponsors, les équipementiers et tout. Je t'en voudrais pas, en tout cas.
Ok, ça va. Voilà.
qu'on les remercie, les gens qui soutiennent les gens.
Oui,
mais en fait,
on essaye vraiment de faire des contrats de partenariat très long terme. Donc, par exemple, les One Shot, ça ne nous intéresse pas. On refuse systématiquement. Ouais. Tu vois, par exemple, avec Speedo, ça fait presque 5 ans que je travaille. Avec les montres WeSings connectées françaises, pareil, c'est la 6e année en fait, de contrat. Donc, on essaye vraiment d'avoir des... Je travaille que avec des produits que moi j'utilise et aussi que mon équipe aime. On s'en parle vraiment, on les teste ensemble. Là, tu vois, par exemple, j'ai créé une brassière avec la marque de lingerie française Simone Perel. Et en fait, enfin, mon équipe a aussi été associée au projet. Elles l'ont toutes, elles en ont toutes une, elles la portent. Donc voilà, c'est, on essaie que de faire des collaborations qui nous plaisent et qui nous concernent vraiment. Sinon, vraiment, on les fait pas, puisque c'est vraiment pas du tout la majorité de notre business.
Tu as travaillé avec Stéphanie chez Simone Perel?
Ouais, tu la connais, Stéphanie Buzard.
Ah, je la connais très bien, ouais, c'est une bonne copine. Ouais, ouais. On l'embrasse si elle nous écoute.
On l'embrasse, ouais, tout à fait.
Et d'accord. Et Speedo, tu as un rapport aussi avec la natation de près ou loin, ou ils font autre chose?
Alors moi, j'ai beaucoup nagé étant ado. Enfin, c'est vraiment mon sport de base d'enfance. Donc, j'adore la natation. C'est vraiment mon sport doudou. Dès que j'ai un peu mal quelque part, je vais nager, ça va tout de suite beaucoup mieux. Et en fait, bon, Speedo, vraiment, la plupart du temps, on sponsorise forcément des nageurs de très haut niveau, olympiques, etc. Mais ils ont aussi besoin d'avoir un peu un dialogue avec des gens qui nagent en plaisir, en fait, pas forcément.
Ouais, toucher terre, quoi. Ouais.
Voilà, c'est ça, les nageurs occasionnels ou juste des nageurs fitness, comme ils les appellent. Et ceux qui font aussi de l'aquagym, etc. Et du coup, moi, je travaille avec eux plutôt dans cet axe-là, donc pour parler en fait de matériel adapté un peu à tous les niveaux, pas forcément les lunettes de super compète, mais voilà, les lunettes que tout le monde va acheter pour nager 1000 mètres comme ça le mercredi.
Et là encore, tu me fais du mal, parce que s'il y a vraiment un truc qui me manque en ce confinement, c'est de nager, tu vois, aussi.
Alors, ah, moi aussi, ça me manque, mais franchement, ça devient épidermique. Ouais, c'est un manque vraiment profond pour moi aussi et pour mes enfants qui nagent aussi beaucoup.
Ouais. Tu vois, encore quelqu'un qui me fait du mal, mais moi, je fais un entraînement de natation tous les mardis soirs et chaque mardi, au bout de 58 minutes, je me dis, mais les deux dernières minutes, je pourrais jamais les finir, c'est trop dur.
J'ai un plan d'entraînement de natation, tu l'as déjà testé?
Non, je te l'achèterai. Tu me feras un prix peut-être. Écoute, c'est cool. Bon, alors, on va pas faire un tour de ton business plus grand, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Je voulais vraiment qu'on puisse parler avec toi et que tu puisses, tu vois, j'aimerais quand même que tu m'expliques avant de rentrer pleinement dans les conseils, dont je voudrais parler aujourd'hui, juste ce que c'est que la micronutrition par rapport à la nutrition.
Oui, tout à fait. En fait, si tu veux, il y a un peu deux façons de voir la nutrition. Tu peux voir la nutrition d'un point de vue glucides, lipides, protéines, les calories. Mais finalement, aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que la nutrition, c'est pas du tout ça. Le corps humain, c'est pas une usine à brûler de la calorie. En fait, le corps humain, et comme tous les organismes vivants, c'est des usines biochimiques très complexe. Et en fait, la micronutrition, ça va plutôt s'intéresser aux micronutriments, donc plutôt les vitamines, les oligo-éléments, les acides aminés, vraiment la composition, mais vraiment biochimique, micronutritionnelle de l'alimentation. Et en fait, en essayant d'écouter les symptômes des gens, de la fatigue, des insomnies, des fringales, plein de trucs comme ça, eh ben, on peut souvent un peu déceler des manques de magnésium, de zinc, de sérotonine, d'hormones, du sommeil. Et en fait, on peut les orienter vers la bonne alimentation. Et du coup, quand tu manges mieux, eh ben, t'as aussi moins faim, t'as plus d'énergie pour faire du sport. Et en fait, c'est une façon d'aborder la nutrition de façon beaucoup plus intelligente aujourd'hui que juste 1500 calories, bête et méchant, qui finalement veut vraiment rien dire.
Ok. Compris.
Et ça, on pourra en parler une autre fois, parce que alors là, si tu me lances sur ce
sujet. Oui, en effet, on pourra en parler et j'en serais ravi. Ce que je voulais voir aujourd'hui, déjà,
sur la qualité nutritionnelle, en fait.
D'accord. Ce que j'aimerais voir aujourd'hui, c'est bien. Moi, ce qui me plaît dans la manière dont tu te mets en avant, vous mettez en avant votre méthode. C'est que moi j'ai un côté un peu hardcore de temps en temps et j'aime bien aller voir, tu vois.
Oui, mais d'ailleurs, pour ça m'étonne énormément que tu t'intéresses à ce que je fais, parce que comme moi je suis pas du tout dans le hardcore, et ben il y a très peu d'hommes en fait qui suivent ce que je propose.
Ouais, mais ce que j'aime bien dans la manière de présenter de ce que tu fais, c'est que t'expliques que t'es pas le coach trop hardcore, justement, t'es le coach de tout le monde, enfin vous accompagnez tout le monde, mais y a quand même des niveaux et un certain nombre d'approches qui sont hyper intéressantes. Et moi, je pense que dans mes auditeurs et même dans mon approche, de temps en temps, on peut pas s'identifier, même si j'aime bien aller chercher et travailler avec des sportifs hardcore dans leur démarche et comment ils ont fait pour être meilleurs que les autres, souvent dans le mental aussi énormément, mais aussi dans l'entraînement. J'aime bien aussi que ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui est accessible pour tous, quoi. Et c'est un peu l'idée, surtout ce dont on a besoin en ce moment. Il y a une semaine, j'enregistrais avec un amiral, donc un univers bien loin du tien, et encore quelqu'un de très humain, et vraiment un épisode qui m'a beaucoup plu, et qui était ancien commandant de sous-marin. Et il m'a dit un truc qui a un peu déclenché cet enregistrement avec toi, qui était dans un sous-marin, en gros, généralement, on part 70 jours. Et souvent, au 35e jour, il y a une sorte de petite fête ou en tout cas un truc qui dit, bah voilà, on a passé la moitié. Et au 36e jour, il y a un contre-coup où tout le monde se dit, bah ouais, en l'occurrence, on a encore la moitié à faire, tu vois. On est à peu près, en tout cas, pour ceux qui écouteront cet épisode plus tard, mais on est à peu près dans cette situation-là, c'est-à-dire que quelques jours, on nous a annoncé qu'on avait passé la moitié, mais que on allait rajouter presque un mois. Emmanuel Macron nous a dit jusqu'au 11 mai, et encore, ce sera un déconfinement partiel, etc. Donc, faut pas non plus s'enflammer. Et puis moi, après quelques jours, en fait, je me dis, mais c'est vrai que, la gestion des kids, le boulot au quotidien qui, bizarrement, pour beaucoup, et ça j'ai beaucoup d'échos là-dessus, en fait a pas repris le dessus, parce que non, tu le maîtrises, mais en tout cas il redevient comme, pour ceux qui bossent en tout cas, qui sont pas au chômage partiel, et voilà, on revient à une charge de travail quasiment habituelle, presque potentiellement plus, sauf que toute l'organisation autour est potentiellement encore un peu chaotique, ou au moins un peu branlante, quoi. Et du coup, je me dis que c'est intéressant de tu vois, après tous les échanges que tu as pu avoir, qu'on a pu avoir avec moi, des entrepreneurs, toi, potentiellement des journalistes, et on t'a vu beaucoup aussi ces derniers temps, de se dire, ok, maintenant, on n'est plus dans cette phase de sidération et de qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit le faire, mais on est aussi dans cette phase de, tu vois, on est rentré pleinement dans ce confinement. Et je voudrais qu'on parle un peu de cette suite, si tu veux bien. Je sais pas comment tu la vis, toi.
Ouais.
Si tu perçois ce que tu veux dire.
Écoute, comment est-ce que je la vis? Tu vois, nous, c'est un peu pareil. En fait, au tout début, on a aussi eu la sidération. Pareil, en fait, avec mon mari, on a eu énormément de travail. Donc, les enfants, on les a un peu laissés de côté. Et alors, ça a été un dawa, mais alors complet. Et ensuite, on a créé une sorte de planning. Tu vois, en disant, voilà, on va faire ça le matin, ça l'après-midi. Mais en fait, ce planning était un peu surchargé. Donc, on l'a tenu une semaine, 10 jours. Et après, tu vois, enfin, c'était too much. Et du coup, après, on a un peu lâché l'affaire en se disant, c'est bon, c'est les vacances, les enfants. Mais finalement, enfin, ça leur va pas du tout, les enfants parce que les vacances, ça leur va. Mais quand on fait quand même des choses, alors que là, juste à la maison, donc, on s'est tu vois, là, justement, avec cette annonce de reprise un peu du confinement, avec aussi une date butoir, je pense que ça nous a quand même aidé, malgré tout, même si c'est pas la date où tout va s'arrêter, mais on s'est remis un planning plus allégé, plus light, avec vraiment des horaires bien fixes pour les enfants, le matin, si ça, ça. En fait, on a restructuré un peu les journées, et là, vraiment, depuis une semaine, ça se passe quand même vraiment mieux. Et finalement, pour faire un peu le lien avec le sport, parce que moi, j'utilise un peu très souvent ça, dès que dans ma vie, ça va pas, j'ai un problème, je dis, attends, si c'était en sport, comment ça se passerait? Par exemple, si j'étais dans un 10 km et qu'au 5e kilomètre, tout s'écroule, mais qu'il faut quand même que je finisse mes 5 derniers, comment je fais? En fait, comment je pense le truc? Et généralement, à chaque fois, moi, je dis, quand tout bat, quand t'en peux plus, reprends la technique. Genre, quand à un moment donné, t'en peux plus, t'es crevé, machin, attends. Reprends ta technique, place bien tes genoux, mets bien tes pieds bien parallèles, rentre le nombril, redresse-toi. Même si tu vas moins vite, hop, t'as la technique, tu reprends bien tes muscles profonds et du coup, d'un seul coup, ça va mieux. Parce que dès que tu te déstructures, même dans ta posture de running par exemple ou même de natation, tes épaules, ils partent dans tous les sens, tu dépenses une énergie dingue à faire n'importe quoi finalement parce que tu compenses. Donc, en fait, c'est un peu ce qu'on a fait nous de façon familiale. C'est que voilà, on s'est dit, bon, là, on va restructurer, reprendre un peu une technique un peu des horaires fixes pour qu'il y ait quand même une structure, quelque chose une colonne vertébrale un peu sur laquelle on s'appuie. Et du coup, ça nous guide beaucoup mieux nos journées et ça se passe quand même vraiment mieux, même aussi vraiment pour les enfants. Donc ça, généralement, quand d'un seul coup, tout part un peu en couille, en tout cas dans le sport, reprendre la technique, reprendre les bons placements, tout de suite, ça sauve.
Et alors, du coup, t'as, là, aujourd'hui, cet orga, Tu me disais, par exemple, juste avant qu'on prenne, je te demandais si ça va, tu étais bien isolé, que tu n'allais pas être trop dérangé. Tu me dis, non, l'après-midi, c'est pas moi qui gère les enfants. Donc ça, c'est une des nouvelles choses de la nouvelle orga, c'est ça ?
Alors, on s'est tout de suite déjà dit ça avec mon mari. Lui, il s'en occupe l'après-midi, moi le matin. Après, là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis moins de choses. Donc, en fait, le matin, pendant une heure, je fais l'école à la maison avec ma fille. Mmh. Et pendant ce temps, mon fils fait une activité en autonomie. Parce qu'avant, en fait, je faisais l'école à la maison avec les deux. Et du coup, comme ils n'ont pas du tout le même niveau, mon fils est en CM1, ma fille en maternelle. Donc, c'était n'importe quoi. Mmh. Donc, lui, il fait un truc en autonomie. J'essaye d'inventer des trucs. Donc, hier, il a dû apprendre une poésie tout seul par cœur. Aujourd'hui, par exemple, il a fait un cours de dessin avec une copine qui est prof de dessin par WhatsApp interposé. Enfin, voilà, il fait un truc un peu tout seul. Parfois, il fait un puzzle. Et puis là, pendant ce temps, hop, de 9h30 à 10h30, avec ma fille, je fais vraiment de l'école à la maison. Donc, on fait des petites activités de 5-10 minutes, un peu d'écriture, un peu de syllabes. Et puis ensuite, on échange. Donc, ils font une petite récré dans le jardin. Tu vois, vraiment, on a écrit ça. Ça s'appelle la récréation. Et c'est la récréation et pour les enfants et pour les parents. Et puis, ils font ça. Ensuite, on inverse. Ma fille est en autonomie. Bon, alors, en 5 ans, l'autonomie, autant te dire que soit elle regarde l'iPad, soit elle fait du coloriage. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis, avec mon fils, là, on fait l'école à la maison, vraiment bien structurée, ensemble. On fait une heure. Entre maths, français, après, voilà, enfin, parfois, là, tu vois, aujourd'hui, par exemple, mon fils, il a voulu apprendre une chanson par cœur, donc voilà, il a appris Eyes of the Tiger.
En anglais, pas mal.
Pourquoi pas, ouais, mais en fait, on est bilingue.
Ah, c'est vrai.
Donc voilà.
Ensuite, j'ai une super.
Le repas, et après, moi, je m'occupe du repas, on fait le repas, et ensuite, c'est mon mari qui prend le relais.
Cool, pas mal. J'ai un super tip pour toi sur l'iPad. J'en ai déjà parlé ici. Je l'ai utilisé par moment par le passé. Et là, c'est pas mal une application. Je suis pas sponsorisé par eux, hein, mais je peux le dire. Ce qui s'appelle MyBlimat. Je crois que j'ai dû payer 20 euros pour un mois ou un truc comme ça. Et en fait, MyBli, c'est M-Y-B-L-E-E.
Ok.
MyBli.
B-L-2-E.
Et B-L-2-E. Et en gros, ça marche d'ailleurs, ça fonctionnera pour ton fils en CM1, pour ta fille en maternelle, parce que j'ai à peu près les mêmes âges en ce qui me concerne. Et ils ont par niveau, tu vois, c'est une sorte de gamification. Donc tu vas avoir de la géométrie, des maths, et c'est hyper bien fait. Et tu vois les progrès qu'ils font, mais ne serait-ce que par session, c'est vraiment assez fulgurant. Donc essaye ça, tu verras.
Et moi, j'ai pris le CNED.
Ouais.
Alors pendant le confinement, c'est gratuit.
D'accord.
Ils ont fait des semaines spéciales confinement et c'est mais un milliard de fois mieux que nous, en tout cas, ce que nos maîtresses envoyaient, qui étaient un peu les devoirs, bah, t'es méchant, exercice 5, page 80. Ouais. Tu vois, qui montent. En fait, quand ils voient ça, enfin, tu vois, ça le saoule direct, ça fait devoir. Alors que le CNED, vraiment, il y a plein de vidéos super bien faites, tout est fait à faire sur l'ordinateur, c'est très adapté. Je comprends même pas qu'on nous en ait pas parlé. Et il y a pareil pour de la maternelle jusqu'au CM2. Il y a aussi 6e jusqu'en terminale. Et c'est hyper, hyper bien. Enfin, vraiment, pareil, je le conseille. Mais alors, les yeux fermés, allez-y, c'est exceptionnel.
Bon, le CNED, on mettra le lien. Bon, on va revenir off enfant pour ceux qui n'en ont pas déjà. si je reviens un peu sur les pratiques et tout ce que tu... Si je reviens un peu aux sources de ce que tu fais, coaching sportif, micronutrition, coaching mental, là-dessus, j'imagine que vous avez pas mal planché sur les différentes étapes justement de ce confinement. Et voilà, comment on peut s'appliquer toutes ces techniques dans un quotidien. Moi, ce que je vis, tu vois, c'est au début, j'avais, et puis d'ailleurs, dans les gens que j'invitais sur ce podcast, tout le monde disait ça, bah, je picole tous les jours. J'ai même eu Simon Davlat qui me disait, ouais, voilà, aujourd'hui, j'ai commencé à 11h du match. Je lui dis, là, c'est un peu costaud quand même. Mais j'avais une tendance à quand même picoler un peu trop le soir. Enfin, pas trop d'ailleurs, je me mettais pas non plus par terre, hein, mais vraiment tous les jours, ce que je fais pas du tout habituellement. Donc là-dessus, tu vois, tu mets des règles, tu viens, et puis à un moment, les règles, t'en as marre, tu vois. Donc tu te dis, attends, on est marre des soirs, mais je m'en fous, j'ai quand même envie de boire un verre de vin. Et du coup, comment tu t'appliques ça? J'ai vu aussi que tu vois, tu avais posté la semaine dernière un post sur attendez, lâcher la pression, quoi. Aussi, moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est finalement que par moment j'ai l'impression de pas travailler assez. Et puis là, bon, là non, là c'est fini, ce moment. Mais ça m'est pas trop arrivé. Mais en l'occurrence, voilà. Et quand je travaille trop, j'ai l'impression de pas assez m'occuper de mes gosses. Quand je m'occupe trop de mes gosses, j'ai pas l'impression de participer assez dans la maison, sur autre chose, ou de faire assez de sport. Je fais pas assez de jogging. Je fais pas, tu vois. Et puis à la fois, quand je sors et je fais du jogging, je me dis bah c'est pas bien parce qu'il faut pas trop sortir. Enfin, tu vois, il y a un peu tous ces trucs là où il est où l'équilibre dans tout ça. Et comment tu te dis que t'es au bon endroit?
Ouais, bah.
Je suis désolée, il y a un million de questions, mais...
Alors, il y a plusieurs choses. En fait, nous, vraiment, on a remarqué, parce que moi, ça fait plus de 12 ans que je suis coach sportif et que j'aide les gens à se remettre en forme, il y a vraiment des étapes clés, typiques, à chaque fois, dans des bonnes décisions, des résolutions, si tu veux. Donc, par exemple, nous, d'ailleurs, on l'a constaté, hein, au tout début du confinement, tout le monde, ça a été l'obsession, le sport à la maison. Ouais. Donc, le sport à la maison, faire du sport à la maison, tout le monde à bloc. Nous, enfin, c'est incroyable. On a constaté une augmentation de plus de 30, voire 40% de community management. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a reçu des milliers de messages. Je veux faire du sport à la maison. Comment je vais faire? Comment on va faire pour pas prendre de poids pendant le confinement? C'était vraiment la folie. Donc, du coup, avec mon équipe, on a créé un programme spécial confinement qu'on a créé vraiment au jour le jour. Voilà. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que, c'était comme un peu toute bonne résolution. Au bout de la deuxième semaine et demie, troisième semaine, il y a le drop typique. Que ce soit, qu'on constate, que ce soit en janvier, quand les gens s'inscrivent tous à la salle de sport ou veulent tous perdre 10 kilos au mois de janvier, que ce soit en mois d'avril, mai, quand les gens veulent
se remettre au bikini. Voilà.
Ou en septembre, quand tu t'inscris à ta salle de sport et que finalement, début octobre, tu n'y vas déjà plus. C'est typique. Souvent, les bonnes résolutions, comme ça, les bonnes intentions, deux, trois semaines à bloc. Et à la troisième semaine, il y a vraiment le drop.
Le drop. Donc ça, tu sais le gérer, le drop, normalement. C'est un truc que tu connais.
Nous, on a vraiment l'habitude. Et en fait, comme il y avait le confinement, on s'est dit, ça va être un peu différent. Et en fait, non, finalement, vraiment exactement pareil. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu droppé au bout de deux, trois semaines. C'est tout à fait normal. Après, il faut pas se flageller et se dire « je suis nulle, j'arrive à rien ». C'est tout à fait normal. Souvent, ça traduit un trop grand changement, en fait. On a voulu se mettre trop de buts, trop d'objectifs, trop mieux manger ou trop faire de sport par rapport à ce dont on a l'habitude, trop de pression, trop de trucs, trop. Et en fait, il faut, quand on en est là, c'est bien parce que déjà, on s'en rend compte. Donc, c'est plutôt bien. Et après, il faut juste se dire, j'ai peut-être mis la barre un peu trop haut. Où est-ce que je la réduis? Par exemple, ça peut être, je m'autorise quand même à boire un verre de vin par soir et quand même, je continue à bien manger. Ou bien, je fais du sport deux fois dans la semaine, c'est déjà bien. Peut-être pas cinq parce que, en termes de gestion, c'est impossible. Donc, retrouver une sorte d'équilibre qui déséquilibre un peu moins. En fait, l'équilibre, il est toujours très fragile. On est toujours dans un... En fait, l'équilibre, si tu veux, c'est le déséquilibre. C'est un peu trop d'un côté, un peu trop de l'autre. C'est tangent, mais c'est comme tout. D'ailleurs, moi, dans mes cours de yoga ou de stretching, quand je fais travailler l'équilibre, c'est justement ça. C'est dès qu'on sent déséquilibre, hop, on le rétablit. C'est la même chose dans la vie. C'est dès qu'on sent que ça part un peu trop d'un côté, on le rétablit. C'est pas mal. Donc, il faut pas culpabiliser d'être en déséquilibre. Il faut juste s'en rendre compte. Tiens, là, je me sens pas très bien vis-à-vis de ça. Je vais faire un peu plus de tâches ménagères, par exemple, demain. Et puis, du coup, je me sentirai mieux dans ma peau. C'est, en fait,
après les tâches ménagères.
Oui, parce qu'on culpabilise de pas assez aider.
Oui, mais t'as raison.
Il est toujours très juste. Généralement, le constat, il est juste. Mais le problème, c'est de rentrer dans un dialogue interne qui te dit « je suis nulle, j'y arrive pas ». C'est comme par exemple quand tu cours, quand tu te fais une épreuve, un 10 km, un 1 km, c'est à un moment donné, tu es un peu en sur-régime parce que tu t'es laissé un peu emballer, tu étais bien. Et là, d'un seul coup, tu sens que tu es déjà à bout, mais il te reste encore 5-6 km là. Donc, le constat, il est juste, tu es en sur-régime. Ok, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas abandonner la course. Non, tu vas un petit peu ralentir sans te juger, sans te dire « je suis nul, je suis un bon à rien, j'aurais pas dû faire ça hier ou j'ai mal préparé ». Non, là, si tu pars dans un dialogue interne, tu es dans un cercle vicieux, c'est pas bon tout ça. Et en fait, le plus gros problème de l'être humain, c'est son dialogue interne. parce qu'en fait, personne ne te juge autour de toi dans ta course ou même dans ta famille ou quoi. Personne ne va te dire tu fais pas assez de ci, pas assez de ça. Ou... En fait, c'est juste toi, c'est ton auto-jugement. Et son propre auto-jugement, c'est le plus gros problème mental de l'être humain. C'est l'auto-psychologie, en fait. C'est son auto-jugement, dialogue interne, appelle-le comme tu veux. Donc, il faut que tu sors de ça et vraiment dire, voilà, ce constat, il est très bien. C'est ce qu'on apprend en méditation. C'est juste, voilà, hop, tiens, je suis sortie de ma méditation, mes pensées ont repris là-dessus, je constate, je reviens à mon intention de départ, à ma respiration, à ma détente. Ben là, c'est la même chose, c'est je constate que j'ai un peu déséquilibré, j'ai trop de courbatures, j'arrive pas à tenir mon programme sportif, je reviens à quelque chose qui est un peu plus dans ce que je peux faire, en retrouvant toujours cet équilibre. Mais l'équilibre, c'est le déséquilibre. C'est difficile à ne pas s'auto-juger, mais en fait, c'est vraiment la clé.
Ouais, c'est hyper intéressant.
Elle est longue, la réponse. C'était une longue question.
Non, elle est super. Et voilà. Et puis, excuse-moi, je me suis marré, mais en l'occurrence, tu sais quoi, il se trouve que même dans les tâches ménagères, j'ai trouvé une grosse satisfaction le week-end plusieurs fois. Et notamment une satisfaction parce que c'est un des rares moments où je me mets dans ma bulle, je me prends mes écouteurs, j'écoute des podcasts. Et en ce moment, comme beaucoup, malheureusement, j'ai un peu moins de temps pour en écouter. Et en effet, tu trouves un peu ça là-dedans, en effet.
Normalement, moi, j'ai une femme de ménage deux fois par semaine. Et en fait, bah, souvent, on rentre le mercredi ou le vendredi et c'est la magie, la maison est nickel. Et ben là, tu vois, donc forcément, on a dû tout reprendre. Et
la magie n'opère plus.
Voilà, il n'y a plus de magie. Hein, là, c'est la magie du coude. Et les enfants constatent que bah, on fait le ménage et en fait, ils se rendent compte que ça prend du temps. Tu vois, et ils nous voient faire, et du coup, eux, eh ben, ils le font aussi un peu plus. Hein, tu vois, ouais. Par exemple, ils machinent moins à faire leur lit, ou. Tu vois, donc finalement, quand ils nous voient un peu galérer le samedi, faire tout ça, eh ben, ils se rendent compte que donc, c'est pas si mal, en fait.
C'est un esprit d'équipe qui se forme au sein de la famille Woodward, quoi. C'est bien.
Tout le temps. Hein.
non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant cette histoire d'équilibre et de déséquilibre.
Oui, mais tu vois, moi, j'ai aussi énormément travaillé du côté mère, entrepreneur, coach sportif. Enfin, tu vois, j'étais tout le temps en déséquilibre au début. J'avais l'impression de jamais faire assez de sport. Quand je faisais du sport, j'avais l'impression de pas assez travailler. Quand je travaillais, j'avais l'impression de pas être assez avec mes enfants. Quand j'étais avec mes enfants, j'avais l'impression de pas assez travailler. Enfin, tu vois, le cercle vicié où t'es tout le temps en train de dire, en fait, j'arrive à rien, je suis jamais libre. Alors que si tu te libères de tout cet auto-jugement, eh ben, c'est le plus dur, c'est de se libérer de son auto-jugement. Mais une fois que t'y arrives, bah là, vraiment, t'es beaucoup plus libre.
C'est vrai que t'as touché un point, qui paraît pour beaucoup, tous ceux qui n'ont jamais essayé la méditation, on trouve ça souvent un peu loufoque ou lointain en tout cas. Moi, mon histoire de la méditation, c'est que Benjamin Blasco, le fondateur de Petit Bambou, un jour m'a approché, il écoutait Génération Do It Yourself et il m'a demandé si je méditais. Et d'ailleurs, je voulais, même que pour la vérité de l'histoire, c'est peut-être même moi qui l'ai approché pour le faire passer sur Génération Do It Yourself et il voulait pas. Il m'avait demandé si je méditais, il m'a offert un accès à Petit Bambou. Et moi, je suis curieux de nature, donc j'ai essayé et en l'occurrence, c'est vrai que ça m'a libéré de pas mal de choses. Je suis pas un assidu, enfin là-dessus, pour le coup, je suis pas hardcore, mais j'y reviens quand même assez souvent. Et c'est vrai qu'il y a un côté prise de distance dans cet équilibre qui est intéressant. Toi, c'est une pratique que comment tu la pratiques là, peut-être même maintenant plus que d'habitude, moins pareil.
Alors moi, tu vois, je la pratique moins maintenant parce que j'ai réussi à trouver un peu mon rythme de méditation. J'ai beaucoup pratiqué la méditation il y a 2-3 ans, vraiment, et j'en avais vraiment ce besoin parce que je créais mon entreprise, j'avais beaucoup de personnellement, j'arrivais pas du tout à me détacher, justement. Enfin, j'étais vraiment dans ce sentiment permanent de jamais tout faire bien, assez bien.
Tu avais un nouveau-né, en plus.
Voilà. Enfin, ma fille a 5 ans. Donc, tu vois, elle est petite, 2 ans, mon fils. Donc, c'était, j'ai vraiment pratiqué ça, pas mal, beaucoup, il y a 2-3 ans. Et aujourd'hui, en fait, comme je l'ai pas mal pratiqué, ça s'est un peu intégré. Et maintenant, j'arrive à la pratiquer un peu au quotidien, sans forcément me poser 10 minutes à respirer, mais plus en prenant, et c'est ça, ce recul sur parfois des espèces de dialogues internes que je peux avoir à l'intérieur de moi. En fait, je m'en rends plus vite compte. Et du coup, je prends ce recul plus facilement. Donc, je pense qu'il y a plein de façons finalement de pratiquer la méditation. Mais malgré tout, au début, pour bien comprendre ce que c'est, les bienfaits, il faut passer par, tu vois, l'écoute de la, enfin, d'une méditation guidée avec vraiment cette pause, ce rythme. Ça éduque, ça apprend. Et puis ensuite, après, on s'en sert. Et moi, maintenant, je m'en sers énormément dans le sport, par exemple. Mmh. Enfin, vraiment, je médite pendant que je cours ou je nage. Enfin, c'est vraiment, ou que je fais du vélo. Je m'en sers énormément à des moments où, voilà, où je suis un peu dans le rouge, je recule un peu, ou justement, parfois, je me pousse. Enfin, je suis très dans mes sensations. C'est vraiment génial.
Je crois que tu peux encore.
Le sport en pleine conscience, c'est ce que je développe dans mes cardio guidés. Donc, c'est des fichiers audio, en fait, qu'on a quand on télécharge mes programmes, qu'on écoute pendant qu'on fait du cardio. Donc, ça peut être du running, du vélo, du rameur, peu importe ce que tu veux. Et en fait, je guide les gens dans un sport en pleine conscience. C'est assez élevé comme niveau de, voilà, c'est vraiment de la connaissance de soi, mais c'est fabuleux quand tu y arrives.
Et Marion me disait que ça marchait super bien. Ouais. Du coup, pour rebondir là-dessus, ça me fait penser à tu connais Stéphanie Jiquel, ça te parle ? Une sportive qui fait de l'ultra longue distance, ultra trail, que j'ai eu sur ce podcast il y a quelques temps maintenant, qui fait des courses tu vois, qui va faire 200 km en 24 heures ou qui va traverser l'Antarctique, etc., etc. Et elle me disait qu'elle avait une technique qu'elle utilisait énormément, qui était la visualisation. Donc, notamment quand elle part traverser des zones de froid pendant très longtemps, se dire, ou même sur une course dure où il peut potentiellement pleuvoir, où elle peut avoir des crampes, ou voilà. Elle se dit, avant de partir, elle essaye de visualiser ces différents points difficiles qui peuvent ne pas arriver, en l'occurrence. Et elle se dit, voilà, quand ça arrivera, il faut que tu penses à ça, il faut que tu... Et comme ça, en fait, justement, on parlait de cette sidération, parce que le confinement, on l'a pas vu venir, enfin, à quelques jours près, en tout cas. Est-ce qu'il y a des techniques comme ça issues de la préparation mentale de sportifs, de grands sportifs qu'on peut utiliser dans cette période-là ?
Oui, déjà, par exemple, pour les gens qui sont assez sportifs d'habitude et qui, là, se sentent un peu frustrés de sport et n'arrivent pas vraiment à retrouver un niveau, ça, c'est vraiment très connu scientifiquement. La visualisation de l'effort permet de solliciter 30% des cellules musculaires de l'effort pendant la visualisation. Donc, par exemple, les sprinteurs, tu vois, type les 100 mètres, 400 mètres, une semaine avant leur grosse compétition, ils arrêtent leur sport parce que il faut que le corps se régénère à mort, tu vois, qu'ils aient plus aucun impact, que les articulations soient vraiment très fraîches le jour de la compète. Mais par contre, pendant, par exemple, cette semaine-là, 2-3 fois par jour, ils vont vraiment se mettre en visualisation. Donc, ils vont... par exemple être assis ou allongé et vraiment voir visualiser complètement la course, le avant-mar, prêt, hop, le départ, la course complète, la respiration. Et ça a été scientifiquement prouvé. Il y a un neuromoteur qui se crée, donc le cerveau envoie des messages aux cellules musculaires avec 30% de sollicitation de ces fibres musculaires là qui participent à l'effort. Donc déjà ça permet de continuer à avoir ce schéma neuromusculaire de pas tout perdre, parce que souvent en fait dans la perte du sport il y a beaucoup de neuromusculaires qui se perdent. En fait, les neurones, s'ils sont pas sollicités, ils meurent, ou en tout cas ils arrêtent de bosser. Donc ça peut être très positif. Et après, le côté, en effet, visualiser sa course, ressentir l'effet, par exemple, de nager, avoir l'impression qu'on est en train d'être dans l'eau, de ressentir les bienfaits de l'eau sur la peau, si on aime nager, bien sûr, mais de le faire ça pendant 5-10 minutes, vraiment au repos, tu peux en ressortir avec presque les mêmes bienfaits qu'une vraie séance de natation.
D'accord. Mais je pensais que j'étais allé me dire qu'il fallait que je dise à mes employés qu'ils visualisent qu'ils viennent au bureau comme tellement ils se sentent bien chez Cosa Vostra et que mais non non c'était pas ça évidemment ce que tu par rapport à la natation et c'est vrai tu vois j'ai essayé un tout petit peu quand je t'écoutais de me projeter un peu de dans toutes ces sensations qu'on a etc et en fait au-delà de se dire juste ça me manque en effet juste dire qu'est-ce que je fais, quels efforts, quelles techniques, parce qu'à chaque fois on nous corrige, on va nous dire il faut, et c'est hyper intéressant, ouais.
Ouais, c'est intéressant, ouais, tout à fait. Après, bon, ça dure un temps, hein, c'est sûr, mais ça permet quand même de garder le mental et aussi de garder l'amour du sport et en fait cette espèce de dépendance positive qu'on a vers le sport, parce que.
Ouais.
Moi, je trouve que le gros problème aussi avec ce confinement, il y a un risque énorme de décrochage sportif.
Parce que
tu peux, en fait, bah, quand t'es très sportif, bon, le sport te manque, mais ça, c'est même pas 2% de la population. En fait, sinon, la majorité des gens, il faut toujours un peu les pousser et être dans le ressenti positif du sport. Donc, quand tu l'as plus du tout ressenti pendant longtemps, la reprise, elle est très dure, t'as pas forcément envie. Donc, j'ai aussi, moi, très peur pour beaucoup d'adolescents, en fait, hein, qui peuvent être en décrochage sportif massif à l'issue de ce confinement. Donc, le fait de rester comme ça dans quelque chose qu'on apprécie, les bienfaits de la séance de sport qu'on a l'habitude de faire, que ce soit son cours de judo, de danse, ben, ça peut vraiment aider, justement, à rester addict au truc.
Oui, surtout qu'il y a un truc qui me manque, moi aussi, j'en ai parlé ici, je crois, mais... Et c'est assez marrant. Alors là, on est moins dans la pratique et peut-être moins de, je sais pas à quel point si tu es passionné par certains sports, mais plus dans la projection, c'est que il y a plus du tout de sport en direct. Il y a plus de foot, il y a pas d'athlé, il y aura pas de JO cette année, etc.
Ouais,
et donc du coup, il y a quand même une forme de stimulation, tu vois là-dessus. Moi, je me surprends à re-regarder des matchs de foot du mondial, alors pas entier hein, non plus, mais d'il y a de 2018, je me suis fait des matchs de Mike Tyson en boxe pour redécouvrir ou découvrir parce que j'étais un peu jeune cette époque, etc. Que je trouvais et c'est vrai que ça donne un élan de motivation de voir un peu tous ces gens-là, mais je trouve que c'est quand même souvent motivant de voir des sportifs à l'action. Pour toi, tu vois le Tour de France qui est annulé, c'est un des trucs qui moi me donne quand je vois les sportifs qui font les coureurs du Tour de France, j'ai envie de faire du vélo, tu vois, et j'y vais plus facilement. C'est vrai qu'il y a le décrochage, je le sens possible.
Ouais. C'est un facteur de motivation, hein, bien sûr. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des équipementiers sponsorisent les sportifs de haut niveau, hein, parce que bah, on s'identifie et ensuite on a envie de s'équiper comme eux ou de faire comme eux. Donc, oui, absolument, c'est vraiment ça. C'est, par exemple, tu vois, pour les fédérations, souvent, tu vois, quand il y a eu bah, des bons résultats, par exemple aux Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde de foot, ensuite, bah, ça incite les enfants à s'inscrire à tel ou tel sport, à s'identifier, justement. Donc, c'est pour ça aussi, tu vois, au niveau des enfants, ça peut être un énorme facteur de décrochage sportif. Absolument, c'est tout à fait raison.
Sachant que ça a des incidences qui ne sont pas juste physiques, je veux dire, et c'est un peu une des choses que je vis là, c'est... Tu vois, paradoxalement, quand je suis pas allé assez courir, moi, j'aime bien tout ce qui est triathlon, tout ça. Donc le vélo en ce moment, c'est non, j'ai pas de home trainer et donc faut aller trop près, trop loin, ça marche pas. Mais souvent, je vais courir avec un de mes enfants ou les deux, deux des trois en vélo, par exemple. Et mais je me dis, je vois le bénéfice. Psychologique sur le moral aussi. Là, la semaine dernière, j'ai senti à un moment que j'avais juste besoin d'aller courir. D'ailleurs, il y a eu un moment, je l'ai pas fait, mais j'ai eu envie d'aller courir tout seul, tu vois. Alors que je suis plutôt justement team player, etc. À un moment, je me suis dit, j'ai envie de, tu vois, de m'évader, quoi, de s'évader de ce confinement un peu, tu vois. Et en fait, il y a quand même un double impact là-dessus. C'est qu'il y a l'impact physique, mais j'ai l'impression que les bénéfices du sport sont aussi ailleurs, non?
Ah oui, non, mais bien sûr. Mais de toute façon, enfin, le sport, c'est vraiment mentalement hyper important. De toute façon, on est des animaux et on est des êtres vivants de mouvement. c'est ça qui nous fait aller bien. C'est prouvé. En fait, dès qu'on fait 15-20 minutes de sport, on a les hormones qui nous aident à dormir, qui nous aident à être plus heureux. Donc, en fait, notre corps est fait pour faire du sport. Et si on n'en fait pas, bah, justement, on est plus déprimé, en auto, auto-dialogue interne du négatif. Donc, justement, pour se sortir de cette spirale, c'est le sport, c'est le mouvement. Alors, ancestralement, on est fait justement pour bouger, nomade, tout le temps marcher, courir à droite à gauche pour chasser, cueillir, bouger. Et c'est ça qui nous rendait heureux. Aujourd'hui, maintenant qu'on est beaucoup plus sédentaire, il faut un peu se forcer, tu vois, pour aller chercher le sport. Mais oui, c'est ça qui rend heureux, qui rend les enfants beaucoup plus concentrés, beaucoup plus fiers d'eux, mieux dans leur peau, et les adultes aussi. Donc, bien sûr, au bout de 15-20 minutes, tu sécrètes des endorphines. De 15-20 minutes de sport, tu sécrètes des endorphines. C'est une hormone, en fait, de la détente, du bonheur. Et ça aussi favorise l'endormissement le soir avec la production de mélatonine, surtout si tu as pris la lumière du soleil. Donc, bien sûr, il y a les aspects physiques et physiologiques, mais il y a l'aspect vraiment mental énorme, bien sûr. C'est très important. Et en fait, tu vois, je trouve que pour la sécurité sanitaire, c'était peut-être obligatoire, mais en obligeant les gens à ne courir que entre 19h et 9h du matin, je sais pas, enfin, tu vois, je trouve que ça limite quand même énormément l'impact. Et du coup, on a toujours l'impression que le sport, c'est ça qui fout la merde et tout. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Enfin, il faut faire du sport, il faut sortir, il faut bouger. Il faut surtout booster son immunité. Le sport booste l'immunité.
Les
maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, qui sont des facteurs de ultra risque de développer un Covid-19 très méchant.
Mais au risque de d'en choquer certains, c'est sûr que et en particulier, alors peut-être qu'il y a les grosses agglomérations où c'est un peu différent, et Paris en particulier qui a mis ses mesures, mais j'ai l'impression qu'à Paris, à partir de 19h, du coup, tout le monde sort en même temps.
Ouais,
Du coup, on stigmatise énormément les gens qui font du sport, mais si on les laissait sortir un peu peut-être au fil de l'eau toute la journée, parce qu'évidemment, ils vont pas sortir à 11h du soir. Il y en a qui le font, mais pas beaucoup. Peut-être que ce serait quand même potentiellement un peu mieux. Et en l'occurrence, comme tu le dis, prendre un peu le soleil, prendre un peu tout ça. En tout cas, c'est sûr que c'est...
Alors après, ça a l'air d'être compliqué en termes de densité. En fait, je pense que c'est plus des problèmes de densité. Mais tu vois, par exemple, dans les Yvelines, là, moi, où j'habite, il y a eu un moment donné, là, juste après Hidalgo, cette mesure de pas courir entre 9h et 19h. Finalement, ils l'ont arrêté. Ils ont autorisé le fait de pouvoir faire du sport pour individuel à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
Non, je pense qu'il y a une responsabilité aussi individuelle. Et ce qu'il faudrait aussi dialoguer peut-être un peu plus, c'est dire aux gens, allez peut-être pas juste... sur les quais ou tous au même endroit. Après, on peut courir quand même partout. Tu peux courir dans la rue, tu peux courir dans plein d'endroits plus simples, sur des avenues. On n'est pas obligé de se concentrer dans les mêmes endroits. Mais bon,
j'espère beaucoup que ce coronavirus, en tout cas cet épisode, aidera vraiment les autorités publiques et politiques à prendre énormément en considération l'intérêt du sport et de la nutrition, parce qu'au final c'est quand même ça qui fait que tu es en super bonne santé et mieux armé ensuite pour combattre un virus. Alors après, bien sûr, il y a certaines personnes qui ont été très attaquées alors qu'elles étaient en bonne santé. Donc, il y a peut-être des facteurs génétiques, on ne sait pas. Mais majoritairement, quand même, le fait d'être en très bonne santé à la base, ça te donne moins de risques de développer une maladie un peu plus grave.
Si je devais venir sur un conseil un peu Lucille Woodward, alors je sais que tu ne peux pas faire de généralité, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui sont... une journée bien faite, en tout cas, sans parler par exemple des temps de travail et des enfants, parce que chacun a son truc, mais d'un niveau sportif et alimentaire, est-ce que il faut, sans se contraindre, mais essayer de... Moi, j'aimerais me pousser un peu plus à faire une sorte d'éveil musculaire. En fait, ce qui me choque en ce moment, c'est que tu parlais du fait qu'on se soit sédentarisé. Oui, mais alors là, c'est plus l'idée de la sédentarisation, c'est de l'ultra-sédentarisation. C'est-à-dire que là, on bouge plus du tout. Donc, t'aurais un micro-programme à me donner, chacun en fera ce qu'il veut.
Ouais, bien sûr. Par exemple, déjà, se réveiller toujours à la même heure, Je pense que en ce moment, c'est quand même vraiment pas mal parce que du coup, ça t'oblige aussi à avoir à peu près une heure de coucher. Et donc voilà, par exemple, moi, je me réveille à 8 heures. Bon, c'est ni tôt ni tard, hein, mais voilà, on se réveille à 8 heures. Ouais. Ensuite, démarrer la journée, pas forcément direct en allant manger, parce qu'en fait, le fait de prendre un petit déjeuner, souvent, en fait, c'est un peu un automatisme, mais on n'a pas forcément vraiment faim. Et quand on mange sans avoir vraiment faim, ben, on va plus manger que ce dont on a besoin, parce qu'on n'est pas dans ces sensations de faim et de satiété. Donc, prendre un peu le temps, pourquoi pas profiter pour faire un peu d'étirement, un réveil musculaire, 15-20 minutes. Par exemple, moi, c'est ce que je fais là, comme j'ai mal au dos, mais je peux pas aller voir d'ostéo. Tous les matins, pendant 10-15 minutes, je me fais un peu des étirements entre le yoga et le stretching pour mon dos, pour aller bien. Et là, du coup, tu peux plus savoir si tu as faim ou si tu n'as pas faim. Et si on n'a pas faim, on ne mange pas. Ça, c'est très compliqué à expliquer, mais si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Et vous mangerez que quand vous aurez faim. Bon, ensuite, moi, je prépare le petit déjeuner pour les enfants. Donc, voilà, si j'ai faim, je mange. Si j'ai pas faim, je mange pas. Après, quand je suis avec les enfants, c'est plus difficile de pas manger. Parce que t'es...
c'est ça. Quand il y a la grosse tartine de Nutella qui est devant toi. Là,
ouais.
C'est...
ouais, alors après, on essaye de pas trop avoir de sucre au petit déjeuner, nous. Donc,
j'imagine.
Beurre, pain complet, ouais. Boulanger ou qu'on a fait nous, et voilà, un thé. Ensuite, moi le matin, je suis avec les enfants, un déjeuner plutôt vraiment très orienté légumes et légumineuses. Donc, ça peut être des haricots rouges et plein de légumes ou des lentilles et une grosse salade.
Ouais.
Et puis, ensuite, moi, je travaille et généralement, après 17h30, 18h, je vais faire du sport. Donc, soit chez moi, soit un petit peu de running, mais pareil avec ma fille qui fait du vélo à côté dans le quartier. Mais vraiment, idéalement, une vraie grosse heure de sport.
D'accord.
Parce qu'en fait, là, comme tu dis, on est en ultra sédentarité. Donc, les 30 minutes de marche par jour et tout ça, on les a pas du tout, si tu veux. Donc, on n'a rien, quoi. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, il y a certaines de mes collègues, elles sont même pas à 300 pas par jour. Elles habitent dans des apparts de 20-30 mètres carrés. Donc là, il faut vraiment compenser. Et surtout, il y a eu des nouvelles recommandations de l'ANSES, donc l'Agence Nationale Sécurité Sanitaire, qui vraiment demande aux gens de travailler l'appareil locomoteur surtout, donc tout ce qui est jambes, genoux, hanches, voilà. Parce qu'il y a des risques, après le confinement, avec une perte de masse musculaire de 25 voire 50%, de ensuite revenir et avoir plein de chutes, de fractures suite justement à cette ultra sédentarisation et fonte de masse musculaire. Si t'es sédentaire complètement, genre comme les astronautes dans les fusées et tout ça, en 3 semaines, tu perds 25% de ta masse musculaire.
Là, je suis en train de réaliser que c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur. Moi, j'ai tendance à courir 1 à 2 fois par semaine en ce moment, ce qui est pas assez. Habituellement, quand je cours. Pardon ?
Comme il n'y a plus du tout de marchabilité. Ouais,
ben c'est on ça. Alors que normalement, je peux ne pas m'entraîner pendant un mois et courir 10 km, c'est facile, tu vois. Je reste à 50, 55 minutes max, tu vois. Et là, au bout de 6, 7 km, je suis en peine, quoi. C'est affreux, je l'ai fini, mais c'est plus dur, ouais. Je comprends, en effet, ouais.
Ouais, là vraiment l'idée c'est de faire au moins 1 heure de sport, alors soit 2 fois 30 minutes, soit 3 fois 20 minutes, mais surtout orienter jambes, beaucoup d'appareils locomoteurs, beaucoup de, voilà, ça peut être de la marche, des fentes, des squats, du vélo, de la corde à sauter, hein. Voilà, après nous on a construit un programme spécial confinement qui justement propose énormément d'entraînement autour de l'appareil locomoteur. Parce que voilà, c'est vraiment le gros risque. On ne sait pas en fait ce que ça va donner. Ça n'a jamais été fait. C'est-à-dire qu'une population mise 2 mois au canapé. Tu te rends pas compte. Ensuite, les médecins du sport, les ostéos, les kinés, il va y avoir énormément de besoins, de demandes. Ça c'est pas. Mais voilà. Et donc là, nous, les coachs sportifs, on est là pour ça. Et d'ailleurs, il y a une tribune qui a été très bien faite par la plupart des grandes salles de sport françaises, qui a été publiée, je crois, dans Le Point. hyper intéressant et qui avec les grandes entrepreneurs de salles de sport qui disent mais là on doit être considéré comme une activité essentielle parce que là il va vraiment y avoir un énorme problème de sédentarité, de surpoids et surtout de ostéo-articulaire. On connaît pas mais enfin, tu vois, ça peut être vraiment un très gros souci. Donc, on espère vraiment que les salles de sport vont réouvrir. Parce que pour l'instant, c'est un peu vu comme la dernière roue du carrosse. Clairement, c'est le truc qui rouvrira en dernier.
Ouais, ouais.
Je pense que ce serait une très grosse erreur.
Ouais, c'est pas juste quelque chose pour être beau, quoi. C'est aussi quelque chose pour être bien, quoi.
Mais, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, souvent, et ça, c'est vraiment un problème que moi, je constate énormément, c'est... Souvent, les gens, en fait, ils veulent faire du sport juste pour le physique, pour perdre du poids, pour se gauler, machin. Alors, c'est intéressant parce que c'est quand même une façon d'arriver vers nous et vers ce qu'on propose. Mais nous, on est des éducateurs sportifs, on est des coachs, on est là pour faire du bien aux gens, pour les remettre en état de santé.
Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant. Et après, donc, tu finis ta journée, un repas plus léger, du coup, tu n'as pas fait de gros repas.
Voilà,
lourd,
idéalement, ouais. Donc après le sport, justement, toujours pour bien stimuler l'appareil locomoteur, une douche plutôt froide, au moins sur tout ce qui est jambes, jusqu'aux fessiers, idéalement jusqu'au nombril, 3-4 minutes de froid. Ensuite, on termine tout le corps par le chaud. Et puis, un dîner le plus léger possible, le plus végétal possible. Voilà, donc éviter... C'est dur, hein, je sais, c'est dur d'éviter le fromage, la viande le soir et tout. Mais voilà, idéalement, au moins 2-3 fois dans la semaine, peut-être un dîner soupe, morceau de pain ou grosse salade et plein de légumes.
Puis à 21h, une bouteille de vin par semaine, par personne. Voilà, c'est ça.
Alors, le vin... Non, tu vois, le vin, vraiment... 2 verres par jour, pas tous les soirs.
Oui.
La recommandation là qu'on a vue souvent dans les pubs et tout à la télé, 2 verres par soir, pas tous les soirs, c'est pas mal.
Non, mais je déconne. Évidemment, mais après c'est trop. Je vais sortir avec encore plus de pression là. Mais non, c'est vraiment top. Mais en effet, je pense que tu touches un point hyper intéressant de psychomoteur et de. C'est vrai que j'ai fait pas mal de squats au début, j'avais trouvé un autre programme sympa. Tu bossais pas mal avec Doctissimo, toi, à un moment, c'est ça, non? Je sais pas si c'est toujours le cas. Mais...
Oui, en fait, moi, j'ai commencé comme ça, parce qu'en fait, à la base, j'étais journaliste médicale, donc j'ai beaucoup travaillé pour Doctissimo, et quand j'ai eu mon diplôme de coach sportif, j'ai proposé de faire des vidéos, en fait, de sport, remise en forme après la grossesse. Donc, j'ai commencé à travailler avec Doctissimo, à faire beaucoup de vidéos YouTube sur Doctissimo, et puis ensuite, j'ai monté ma chaîne à moi, mon blog et mes programmes. Mais ouais, j'ai beaucoup bossé pour Doctissimo.
Et donc voilà, je m'étais arraché avec un de tes confrères aussi un peu de faire des hits, des Tabata, des choses comme ça. C'était pas mal. Dans un autre
rôle. De toute façon, tout est bien. Après, le hit Tabata, c'est intéressant, mais pour des gens qui ont déjà des bons niveaux sportifs. Donc, c'est pas à tout le monde, voilà, c'est ça. Et avant de pouvoir faire du hit Tabata, il faut quand même apprendre à très bien se placer, à être... Enfin voilà, avoir une bonne conscience de son schéma corporel, de voilà où sont mes épaules, mes genoux, l'engagement volontaire de la sangle abdominale, qui est quand même pas le cas de tout le monde. Donc moi j'aime bien aussi l'éducation au bon placement. Je trouve que c'est vraiment hyper important.
Clairement. Écoute, c'est top. Ça me rebooste, ça me donne plein d'envie, plein d'idées. Je vais me rebouger un peu plus tous les jours.
Après moi je trouve vraiment que ça serait bien. Mais c'est difficile à dire, donc je le dis à la fin, comme ça il y a peut-être des gens qui ont décroché. Mais non, mais en fait, je pense que vraiment ça peut être aussi cet épisode-là de coronavirus, un moment où il y a une sorte de responsabilisation de la population vis-à-vis de sa santé, vis-à-vis de l'éducation des enfants, de la protection aussi des autres, avec nous-mêmes qui faisons très attention avec les gestes barrières, protéger les autres, mais se protéger soi aussi. En faisant du sport très régulièrement, en mangeant bien, sans que ça devienne un truc de pression ou de jugement, mais voilà, en restant dans quelque chose de sain, de naturel. Mais c'est difficile à dire.
Non, mais je suis complètement aligné, Lucille.
Et le sport et la responsabilisation de chacun, il y a un peu parfois on a l'impression qu'il y a un peu une guerre des clans, mais on peut être body positive, s'aimer comme on est, ne pas être parfaite, ne pas être une sculpture, parce que c'est insupportable toutes ces images qu'on nous impose et cette espèce de jugement permanent du corps de la femme ou de l'homme d'ailleurs. C'est insupportable, Mais d'un autre côté, il y a aussi, enfin voilà, cette responsabilisation, je pense, nécessaire de tout un chacun sur le sport, le fait d'être en bonne santé, justement, bah, pour que la société soit le moins impactée quand il y a des maladies comme ça qui nous arrivent, pour coûter le moins possible aussi à la sécurité sociale, qui en a pris un coup énorme avec cette situation sanitaire. Donc, on peut aussi se mettre comme ça dans cette responsabilisation de bien manger, de régularité du sport, de sommeil, qui peut être hyper positif. Enfin, moi, j'espère vraiment que c'est vers ça qu'on va aller. Je sais pas, mais en tout cas, je l'espère.
Mais je suis complètement aligné dans le sens où je pense que, et j'ai pas honte de le dire aussi, mais je pense que c'est aussi un moment dans lequel souvent chez soi on peut avoir de mauvaises habitudes, et là comme on est confiné chez soi, ben de toute façon il faut quand même bouger un peu les choses, et c'est aussi le moment où ben moi j'ai finalement tu vois, si je prends vraiment le fitness en ce qui concerne, tu vois, tu parlais de sangle abdominale, des épaules, comment t'appelles ça,
l'appareil locomoteur.
Locomoteur, merci. Finalement, j'en ai presque jamais autant fait. Je fais plus attention à ce que je mange, en l'occurrence, et parce que je mange jamais dehors ou très peu, quelques commandes, mais beaucoup moins qu'avant. Donc je sais tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et voilà. Et en l'occurrence, je pense qu'il y a une forme des bonnes routines à prendre, associées chez soi à un endroit sain et dans lequel on est bien. Je pense que c'est potentiellement le bon moment pour prendre ces belles habitudes, quoi. Parce que de toute façon, comme on le disait tout à l'heure, c'est tout ça est une question d'habitude, de routine. On n'aime pas le mot routine trop en français, ça fait un peu plan-plan, mais en l'occurrence, il y a plein de bonnes routines à prendre au quotidien et potentiellement à s'imposer un peu au début pour s'y faire ensuite. Ouais. Donc,
et j'espère vraiment aussi que ce sera repris justement par les autorités et les intentions politiques, parce que finalement c'est vraiment une politique. Par exemple, tu vois, la tribune là, des responsables de salles de sport, ils demandent une TVA à 5,5. Bon, c'est pas nouveau, hein, la TVA à 5,5, ça fait des années qu'on la demande. Hein. Mais tu vois, ça pourrait être aussi un moment où voilà, on dit tiens, c'est quand même des activités essentielles de remettre la population en forme, de maintenir une population en forme. C'est de la prévention sur le très long terme, de la gestion du risque finalement. Hein. Et en fait, ça pourrait être aussi, tu vois, une grosse démarche très intéressante qui pourrait être faite. Donc, écoute, on verra, on suivra. Mais encore une fois, sans rentrer dans un auto-jugement et se dire « je fais pas assez, je suis nulle », ben, ça revient à ce qu'on s'est dit au début. Juste une routine, comme on se lave les dents 2 fois par jour, et ben faire du sport tous les jours, de façon régulière, ce qui nous fait du bien, avoir la conscience de ce qu'on mange, de comprendre les nutriments qu'on avale et pas juste les calories. Enfin, voilà, moi, je pense que ça pourrait être, j'espère que ça le sera, un grand moment où de prise de conscience massive sur la responsabilisation de chacun vis-à-vis de sa santé, de soi-même et des autres.
Et ben voilà, je pense qu'on a tout dit alors. je t'ai pas fait non, moi, mal, je suis pas assez vengé. Je voulais me venger, mais tu vois, j'ai pas réussi. Donc voilà, je vais me faire un plan d'entraînement, je vais te l'envoyer et puis on verra. Sinon, le problème, c'est que j'y arriverai même pas. T'sais.
Alors oui, bien sûr, nos plans d'entraînement à télécharger pour se responsabiliser et mieux comprendre comment faire du sport de façon régulière. Mais par contre, si vous voulez voir des sportifs de haut niveau faire du sport en ce moment, en direct, ça se passe sur France 3 tous les matins à 10h30. J'anime une émission qui s'appelle Rester en forme. Donc, on fait faire du sport aux gens qui nous regardent à la télé, avec Amadou, qui est un coach sportif génial. Et on a à chaque fois en duplex une famille, comme n'importe qui, et un sportif de haut niveau. Donc, tu vois, on a eu, par exemple, Justine Dupont, la record woman du monde de grande vague à Nazaré. On a eu Yashvili, des François Cross, un rugbyman du Stade Toulousain. Enfin, voilà, on a des grands sportifs de haut niveau, des médaillés olympiques de judo, de natation synchronisée, qui viennent avec nous en duplex, donc depuis chez eux, là où ils sont confinés. Puis on a eu Valériane Ayayi, une basketteuse internationale qui est en Serbie et qui est confinée en Serbie à Belgrade dans son club, et elle a fait la séance de sport avec nous. Donc vous les voyez bouger et ils existent toujours.
Eh ben écoute, parfait, voilà, sur France 3, le matin, quelle heure?
À 10h30 le matin.
À 10h30. Ouais. Voilà, et tout ça, on le retrouve sur tes réseaux sociaux. Donc, si vous tapez déjà Lucille Woodward sur Google, vous avez une belle. On mettra tous les liens sur la page du podcast, YouTube, le lien vers le site internet sur lequel il y a tous tes programmes, et puis après Instagram évidemment, un peu partout. Et comme ça, on garde contact avec toi. Je te revois moi probablement demain, Lucille. Hein, tu vois sur mon écran, je vais. Je vais me refaire du mal. Et puis, je te remercie. Je remercie Marion aussi pour la préparation de tout ça. Et puis, Léa qui a produit cet épisode. Et puis, je te dis à bientôt alors.
À bientôt. Continue de faire du sport, de bien manger, mais sans te culpabiliser, tu vois. C'est ton next step.
C'est mon next step, ouais. Mais tout en me faisant mal, je continue. Salut Lucille, merci pour tout.
À bientôt, salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous pensez qu'il pourrait intéresser un de vos proches, je compte sur vous pour lui partager. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Génération Do It Yourself sur gdiy.fr et d'aller regarder ce que font mes sponsors qui me font l'honneur de m'accompagner en temps de crise. Allez, on continue à se battre.